sera vite fait, je vois. Mais il y a 7 questions, donc ce sera très vite fait. Premièrement, le verbe a assumé la nature humaine, j'aimerais avoir quelques explications. C'est pas mal comme question, ça, hein? Le verbe a assumé la nature humaine. Oui. Et j'aimerais avoir quelques explications. Je comprends, très bien. Malgré que ma question soit assez vague, en effet, oui. Non, la question est précise, je trouve, au contraire. Très précise, c'est très bien. Bon, je vais répondre rapidement parce que vous comprenez, je ne vais pas vous faire toute la somme de saint Thomas sur ça. Sachez bien, quand même, qu'est-ce que c'est que le fait d'assumer? C'est de là que vient l'assomption. C'est vrai que c'est exact de dire que quand le Verbe de Dieu a pris dans le corps de Marie, le corps de la Vierge, a pris quelque chose pour se constituer un corps, l'expression que la foi de l'Église emploie, pour dire ça, on dit, c'est d'en prendre, de choisir le verbe assumer. Le verbe a assumé en Marie par quelque chose de son corps pour se fabriquer un corps, son propre corps, le corps de Jésus. Bon, et si bien que finalement le mystère de l'Assomption de Marie, où, eh bien, c'est simplement un complément, vous comprenez, puisqu'il avait assumé déjà quelque chose du corps de Marie pour se constituer un corps. Que dès lors que son corps est ressuscité à lui, dans la gloire, il est donc nécessaire. C'est une raison de convenance, mais c'est une raison de sagesse. C'est nécessaire parce que la partie appelle le tout, donc il n'y a pas de doute. À partir du moment où les deux sont de la même substance, il était donc nécessaire que le corps de Marie puisse être assumé par le Verbe glorifié, n'est-ce pas ? Donc c'est bien cette histoire d'assomption, assumée. Assumer, ça veut dire que c'est l'éternité du Verbe qui prend dans son éternité quelque chose de corporel. C'est ça, assumer. Dans l'incarnation, il y a quelque chose du corps de Marie qui est assumé, assomption, par le Verbe de Dieu pour se constituer un corps. C'est pour ça que la tradition de l'Église, elle dit que Jésus, dès sa conception, dès le premier instant de sa vie dans le sein de la Vierge, il est dans la vision béatifique. Il est dans la vision béatifique. Ça paraît impossible de penser que Jésus, par exemple, quand il est crucifié, il est dans la vision béatifique, comme actuellement Sainte Thérèse d'Enfant Jésus, Saint François d'Assise. En ce moment, ils sont dans la vision béatifique, donc une béatitude complètement invraisemblable. Eh bien, Jésus sur la croix, il est dans la vision béatifique. Il ne faut pas oublier ça. Dans les sommets de son intelligence. Et ça nous paraît, nous, impossible, parce que nous, on fait réfléchir au niveau des comprenez, de ce qu'on éprouve, de ce qu'on ressent. Il y a la vision béatifique. Mais oui, on peut très bien, c'est pas du tout impossible, d'être dans une béatitude totalement surabondante, brûlante, éternelle, glorieuse, universelle, intense, simple, réconfortante, jubilante, etc. Bon. Et en même temps de souffrir quasi infiniment. C'est pas impossible. Vous voyez, comme pour nous, ces deux choses-là nous paraissent si contradictoires. C'est pas impossible. Quand lorsque vous souffrez terriblement, et que celui que vous aimez terriblement vient vous consoler, ça n'enlève pas la souffrance. N'est-ce pas? Ce qui s'est passé pour Jésus crucifié, vous voyez, une espèce de béatitude que donne l'unité lumineuse qu'il a avec l'éternité glorieuse. Et en même temps, son corps est vraiment trempé dans son corps, sa nature humaine est vraiment trempée dans tous les sentiments, sans exception, de tous les pécheurs. C'est-à-dire des sentiments de souffrance terrible, puisque les pécheurs n'arrivent pas à s'en sortir. Les pécheurs, c'est qui? C'est nous. On n'arrive pas à se dépatouiller de notre caca. Ça. Alors, c'est terrible, ça. Et en fait, on y arrive. Faut pas exagérer, on y arrive, heureusement. C'est vrai. Hein? Regarde-moi, par exemple. Même moi, j'ai du mal. Bon, alors donc, retenons bien. Retenons bien, quand même. Moi, j'aime bien commencer quand même par le corps, notre corps, notre corps. Il est assumé par quoi? Je vous l'ai déjà dit plusieurs fois. Il est assumé par notre âme. Vous voyez, l'assomption, c'est vraiment quelque chose de très intérieur. C'est de l'intérieur de notre corps, qu'est-ce qui est... Il y a quelqu'un, il y a une étincelle, un principe merveilleux, vivant, réel, qui est là, au fond de nous, et qui, hop, assume tout le corps, qui absorbe finalement tout le corps, pour le prendre dans quelque chose qui dépasse complètement la temporalité, si vous voulez, finalement. Donc, c'est effectivement, notre âme assume notre corps. Notre âme, elle, du centre même de l'âme, du centre même de cette âme, c'est difficile de parler du centre de l'âme, hein? Que l'âme est un principe de vie, hein. Eh bien, c'est déjà donc un centre absolu. Eh bien, néanmoins, du centre même de cette âme, ça ne peut être que Dieu qui l'opère, il y a quelque chose qui est assumé et qui assume totalement l'âme. Exactement comme un aimant prodigieux qui assumerait, qui incorporerait et puis boufferait, si vous voulez, et ferait disparaître toutes les petites émailles d'aimantation, vous voyez ? Parce que c'est ça l'assomption, vous voyez ? Alors, eh bien, c'est la grâce qui assume l'âme. La grâce sanctifiante, vie surnaturelle, du centre même de notre âme, elle vient assumer l'âme. Deuxième assomption. Troisième assomption, la grâce. Qu'est-ce qui est au centre même de la grâce ? C'est la grâce capitale de Jésus. C'est Jésus qui est toute grâce, qui est source de grâce. Jésus assume toutes les grâces. Toutes les grâces sont comme des... donc. Ces petites extraordinaires... c'est beau, moi, je trouve, cette histoire d'assomption, vous voyez ? C'est je prends sur moi, tout se colle sur moi, et du coup, ça y est, ça fait un seul corps, et tout vient pénétrer, disparaît, et il n'y a plus que... c'est assumé. C'est merveilleux. C'est comme la goutte qu'on met sur un buvard, on voit une goutte, et puis petit à petit... c'est assumé par le buvard. Vous voyez ? Alors, la grâce assumée donc par le Christ, la grâce capitale. Le Christ, lui, est assumé par quoi ? Qu'est-ce qui est au centre du Christ ? Le Christ subsiste. Le Christ, c'est le Verbe de Dieu. C'est la personne, c'est Dieu le Verbe, qui assume... qui est au centre même, tu vois Jésus, tu vois notre Seigneur Jésus-Christ, si tu le vois, tu l'étreins, tu le prends, tu le touches, tu rentres en lui, et finalement tu vois que finalement si tu commences à rentrer en lui, tu rentres dans une espèce de, je ne dis pas de trou noir, parce que vous savez, dans le cosmos on parle de trou noir, mais ce n'est pas un trou noir, c'est un trou blanc, si je puis dire, c'est le trou du Verbe. Tout dans le Christ est assumé par le Verbe, c'est extraordinaire. C'est génial, quand on commence à rentrer dans le Christ, on s'aperçoit que le Christ lui-même, dans toute sa gloire, est assumé dans le Verbe de Dieu. C'est génial, je trouve. C'est génial. Alors, le Verbe de Dieu. Et au centre du Verbe de Dieu, qu'il l'assume, et l'assumant, là ici il y a une circumcision, c'est le Père. Et la circumcision, c'est l'Esprit Saint, n'est-ce pas ? Bon, ça, on a déjà vu ça plusieurs fois. Eh bien, écoutez, je trouve que c'est pas mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Comme toujours. Bon, alors... n'est-ce pas ? Oui. La conception ou la naissance ? La nativité, 9e mois après. Oui.
Dans cette sorte d'explosion lumineuse, oui. Qui a tellement éclairé les bergers,
oui.
Puisque sa conception elle-même, pas sa conception, sa
nativité. Sa nativité, oui.
Sa nativité n'a pas été exactement comme une nativité elle-même, c'est-à-dire qu'il a été.
Oui, c'est clair. Et qu'est-ce que tu voudrais qu'on dise là-dessus par rapport à ça ? C'est que simplement, qu'est-ce qui s'est passé ? Ah oui, non, c'est-à-dire que là, il y a un rayonnement. Il y a un rayonnement. Hein. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Oui, c'est des modalités particulières. C'est une modalité particulière. Justement, c'est pour ça que, hein, je disais ici, la question elle est posée en disant le Verbe a assumé la nature humaine. J'aimerais avoir quelques explications. Donc je vous donne le substrat d'explication. Le Verbe est ici et il a assumé la nature humaine, c'est-à-dire ici. Donc ici, comme c'est enregistré, ils n'ont pas le tableau, je dis. Donc le Verbe qui est ici en cinquième position, il a assumé la nature humaine qui est en première position. N'est-ce pas? Mais j'ai quand même des intermédiaires. Un, deux, trois. Entre les deux. Donc, vous voyez que c'est simple. C'est simple. C'est très simple. Dès qu'on connaît Jésus, c'est une très grande simplicité de comprendre ça. Mais ce qui s'est passé à la conception, il l'a assumé à quel moment, cette nature humaine? Il l'a assumé à la conception, au moment du mystère de l'incarnation. Et l'assumant au moment du ministère de l'incarnation, il faut bien voir que ce que le Verbe de Dieu a fait, il a assumé donc la nature humaine, sa nature humaine, à travers le corps de Marie, mais il l'a assumé parfaitement. Tandis que nous, vous voyez notre problème, c'est parce qu'il faut quand même arriver à réintroduire dans la métaphysique, n'est-ce pas? Bon. Notre problème à nous, c'est que notre âme, n'est-ce pas? Lorsqu'elle assume notre corps, elle ne l'assume pas parfaitement. Elle l'assume bien substantiellement. Ah, tiens, substance. Elle l'assume bien substantiellement, mais quand même, il y a une fêlure. Il y a une fêlure, il y a une opacité, il y a une lourdeur que nous connaissons venir des conséquences et de l'héritage d'une part du péché originel et des conséquences du dit péché originel. Bon, à cause de ça, notre âme n'assume pas parfaitement notre corps. Tandis que le Verbe de Dieu, quand il assume l'humanité, elle est parfaitement assumée, son humanité. Et l'unité entre l'âme et le corps est non seulement une unité dans la subsistance du Verbe. Mais en plus, cette subsistance du Verbe, elle est victorieuse de toutes les opacités qu'il peut y avoir entre le corps et l'âme. Le résultat, c'est qu'à chaque fois qu'il va y avoir une activité, une qualité transcorporelle, si je puis dire, du Christ, il se passera toujours quelque chose qui relève de la nature humaine normale, intègre. C'est pourquoi, donc, il y aura une luminosité. Cette luminosité n'est pas un rayonnement, cette luminosité est une assomption du corps dans l'âme, cette assomption est parfaite et par conséquent le corps est entièrement libre, il est entièrement impassible. Il peut avoir cet état d'agilité, de subtilité, de luminosité qui est tout à fait normal dès qu'il y a une transcorporéité, n'est-ce pas, ce qui s'est passé à la nativité. Mais nous, on n'est pas nés comme ça. Toi, tu es né, moi aussi, pareil, je suis né, ma mère, pour mon frère en tout cas, pas pour moi, mais pour mon frère jumeau, elle a souffert. Bon. Hein? Non, pour moi, non. Non, il avait fait tout le travail, elle a souffert beaucoup pour mon frère, moi, je suis passé comme sur un toboggan. C'est pour ça qu'elle m'aime beaucoup, parce que je n'ai pas fait souffrir. Vous savez, quand j'étais gosse, je voyais ces espèces de vaches qui mettaient au monde les veaux dans les fermes. Et une fois que le veau était sorti, la vache donnait un coup de corne dans le veau. Elle pèse sur le petit veau qui venait d'être parce qu'elle avait eu très 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 mal, la vache. C'est pas? C'est extraordinaire, ça. C'est extraordinaire que Dieu dise dans la Genèse, eh bien, puisque c'est comme ça qu'il est le péché, eh bien, très bien, la femme souffrira à la naissance. Et c'est la vache qui écope. Reconnaître que c'est quand même bizarre. Ça. Alors, nous avons heureusement... Alors, c'est pas bizarre parce que...
C'est le péché qui a introduit la souffrance
pour tous. Pour tous les vivants. Et les souffrances, pareil. Alors... alors, attention. C'est pas parce que toute souffrance ne vient pas d'une conséquence du péché originel. Attention! Toute souffrance ne vient pas du péché originel. Hein. Attention. Il y a une souffrance qui vient du fait que, en tant qu'être humain, je fais partie d'un tout. Et la partie face au tout, elle subit. Il y a une relation entre le tout et la partie. Le cosmos, l'humanité, la société, etc. Il y a une relation de passion, il y a une action. J'ai une action sur le tout, et le tout a une action sur moi. Et donc il y a une passion. Donc je pâtis en tant que partie du tout, je pâtis quelque chose. Mais ça, ce n'est pas une souffrance, puisque c'est normal. Hein. Mais c'est quand même vécu comme une souffrance. Pour nous, c'est vécu comme une souffrance parce que nous sommes fêlés. Notre lien dans le corps vis-à-vis du cosmos est fêlé. C'est-à-dire qu'on ne comprend pas. On ne l'aime pas et on n'assume pas le cosmos. Et du coup, comme on ne le comprend pas, on le perçoit comme une souffrance. Mais c'est une perception. En fait, c'est une passion. Je pâtis le tout, c'est-à-dire je le reçois. La vie contemplative aussi est une souffrance, puisque lorsque j'ai quelqu'un que j'aime, que je contemple, je le reçois en moi, et je découvre qu'il me change, qu'il me modifie. Je le perçois comme une souffrance parce que je suis attaché à mon moi. Alors qu'en réalité, c'est un bien. Donc ce n'est pas une souffrance, c'est une passion. C'est une assimilation, c'est une transformation. Donc toute souffrance ne vient pas du péché. Mais c'est notre manière d'interpréter des événements d'action et de passion qui nous disent que c'est de la souffrance. Donc c'est une... Non.
C'est notre manière
d'interpréter. Non. Oui, c'est notre manière d'interpréter qui vient du péché. Mais pas le fait même. Mais ceci étant, il y a des souffrances supplémentaires qui viennent également des conséquences du péché. Ça, c'est autre chose. Donc il y a un discernement à faire. Toute souffrance ne vient pas nécessairement du péché. Bon. Mais ça, c'est un autre problème. Alors, donc comment est-ce que le Verbe a assumé la nature humaine? C'est extraordinaire, cette expression. J'aimerais avoir quelques explications, mais je ne vois pas très bien ce que je peux donner comme explication supplémentaire. Je dis simplement, normalement, j'aurais pu dire ici, qu'est-ce qui se passe pour moi? Moi, personnellement, mon corps, bon, il est assumé par mon âme, et pendant que mon corps est assumé par mon âme, le premier instant où il est assumé par mon âme, et tous les instants suivants, jusque dans l'éternité, eh bien, il y a quelque chose qui assume l'unité, alors si je vais mettre quelque chose de plus, l'unité de l'âme et du corps est assumée par... L'unité de l'âme et du corps est assumée par quelque chose. Qu'est-ce qui est au centre de cette unité qu'est-ce qui assume l'unité de l'âme et du corps? Ah, vous voyez, c'est le point de vue donc de l'être. L'âme assume le corps, ça c'est la vie. C'est pour ça que si je continue dans l'ordre de la vie, c'est une opération pour le Verbe. Je suis obligé de prendre l'analogie de la vie, vous voyez bien, pour comprendre l'ascension du Verbe. Pourquoi? Parce que c'est par la contemplation, donc c'est la vie contemplative du Père vis-à-vis de son Verbe, qu'il va y avoir un respectus du Verbe vis-à-vis de l'incarnation. Donc c'est bien la vie du Verbe de Dieu qui va assumer le corps, la partie la plus pure du corps de Marie, c'est du côté de la vie. C'est pour ça que, vous voyez, je mets grâce assumant l'âme, le Christ assumant la grâce, le Verbe assumant le Christ. Tandis que pour nous, notre corps et notre âme, ils trouvent leur unité où? Est-ce que c'est l'âme qui donne l'unité à l'unité de l'âme et du corps? Ce serait vraiment ce serait bizarre, n'est-ce pas? L'âme joue un rôle, c'est évident, mais le corps aussi, sinon il ne serait pas uni. Donc l'unité entre les deux vient de l'être. C'est que le corps et l'âme subsistent dans l'être. C'est l'être qui fait subsister cette unité de l'âme et du corps. Dès qu'on perçoit que cette unité qui dépasse le point de vue donc de la vie et de la matérialité de notre existence, aussitôt, on perçoit un jugement de l'existence, mais de manière un peu affective, intuitive. Vous voyez ça? Donc notre âme et notre corps, notre humanité, elle subsiste dans l'être. Tandis que l'âme et le corps unis de l'humanité du Christ ne subsistent pas dans l'être. C'est extraordinaire. Elles subsistent dans la deuxième personne de la Très Sainte Trinité. C'est le Verbe. Et le Verbe, c'est le fruit d'une opération contemplative du Père. C'est Dieu contemplé. C'est le fruit d'une opération vitale éternelle. C'est extraordinaire la différence qu'il y a. Mais en même temps, c'est vrai que c'est une personne et qu'elle-même, avec le Père et l'Esprit Saint, subsiste. Alors là, les trois subsistent, n'est-ce pas, dans l'être premier, dans le Dieu unique. Alors, oui. Alors nous, nous avons une manière. Nous, qu'est-ce que nous sommes? Est-ce qu'on peut parler d'assomption pour nous? Non. Oui, l'âme assume le corps, mais est-ce qu'on peut parler d'une assomption totale? Non, pas vraiment. Parce que notre être ne réalise pas une unité absolue, tandis que entre le corps et l'âme, vous voyez, il n'est pas victorieux de toutes les divisions. Et c'est pourquoi, à partir du moment où il va y avoir le péché originel, il y a une première mort. La mort, c'est quoi? C'est une séparation de l'âme et du corps. Il y a une première fêlure qui fait qu'il y a un décrochage, c'est ce que nous avons vu les fois dernières, un décrochage. L'âme et le corps ne sont pas séparés, mais décrochés. Un petit décrochage. Clac. Un petit décrochage, ça y est. Et ça y est. D'où toutes nos fêlures métaphysiques, nos fameuses brisures de cellulaires. Vous voyez, où c'est le corps qui porte cette espèce de cri de la recherche de l'unité et finalement de l'appel d'un rédempteur. À bien regarder. Alors, de quelle manière suis-je uni au Christ quand je communie à l'Eucharistie par rapport au sacrement de réconciliation quand je reçois l'absolution? Oh, comme c'est très bien, mais petit rappel. Quand je communie à l'Eucharistie, c'est la présence substantielle, voyez, donc là, le Verbe assume l'humanité du Christ, parce que l'humanité du Christ subsiste, rappelez-vous toujours, dans le Verbe. Non, corps et âme, mais subsiste dans le Verbe. Et l'unité entre l'humanité et la divinité produit la grâce d'union hypostatique. Bon, alors, c'est une subsistance. Qu'est-ce que c'est que ce mot-là, n'est-ce pas? Parce que moi, mon corps et mon âme subsistent dans mon être créé par Dieu. C'est un être limité, il est créé. L'unité de mon corps et mon âme subsiste dans mon être. Bon, maintenant pour l'Eucharistie. L'Eucharistie, c'est, vous prenez les apparences du pain, couleur du pain, forme du pain, goût du pain, et le vin. Bon, forme du vin, odeur du vin, goût du vin, et couleur. Bon, tout. Mais, par la puissance de Dieu, la substance du pain et du vin disparaissent, et il reste encore la couleur, malgré qu'on ait catapulté la substance du pain et du vin, il y a une transsubstantiation. C'est exactement comme au billard, tu sais. Tu passes une boule, paf! Il y a des gens qui sont très forts, et il suffit que ça touche, toc, ça vient à la place, et l'autre fout le camp. Hein? Bon, et ben c'est ça ce qui s'est passé. Transsubstantiation. La transsubstantiation, c'est extraordinaire. C'est le coup de billard du bon Dieu, hein, sur l'Eucharistie. Coup de billard extraordinaire. Alors, effectivement, transsubstantiation. Alors, quand je communie, c'est la substance transsubstantiation. C'est la substance du corps ressuscité du Christ. Donc c'est ce par quoi le corps du Christ subsiste. C'est ce qui fait subsister le corps du Christ que je reçois dans la communion. Et qu'est-ce qui fait subsister le corps du Christ? Donc c'est le Verbe glorifié de manière vivante dans son âme qui fait subsister le corps du Christ. Donc c'est pas tout à fait une assomption. Bon, vous avez tout compris, je vois. En tout cas, quand je communie pas, parce que souvent, il y a des gens qui disent « Oh, formidable, cette messe est extraordinaire. J'ai vu dans les doigts, j'ai vu Je l'ai vu son visage, il me regardait. Des beaux yeux extraordinaires. Tu me dis, allez vous faire soigner, parce que c'est pas ça du tout. C'est pas ça du tout. C'est une transsubstantiation. Je ne sais pas si vous voyez la différence. Ah oui, oui, non, c'est formidable, parce que l'hostie était rayonnée de lumière extraordinaire, des étincelles de partout, tout. Qu'est-ce que vous en pensez, mon père? Je dis, écoutez, il y a une bonne confession, peut-être que ça vous fera du bien. Voilà, parce que... Et oui, comprenez? Attention, transsubstantiation. Hein? Eh oui, il faut pas être calu, comme on dit, calu, ce mec. Hein. Alors, c'est une expression de Marseille, c'est calu. Ah oui, au lycée, on disait, je trouve ça génial, cette expression, il calue. Transsubstantiation, je touche vraiment le corps de Christ, mais du côté de ce qui fait subsister ce corps de Christ dans la résurrection. C'est beaucoup mieux, c'est pas? Bon, alors... Mais maintenant, quand c'est un sacrement de réconciliation, je reçois l'absolution. Très bien. Là, ici, c'est plus le pain et le vin. C'est quoi? Quelle est la matière du sacrement? Je vous l'ai dit, c'est mon cœur qui pleure un peu. Mon cœur qui saigne. Mon cœur. La contrition, on appelle ça. Je dis ouvertement ma perversité. Je la dis clairement. Attention, je ne dis pas « je suis pervers ». Je me fiche pas mal du « je suis hein, » en confession. Je dis, j'ai fait ça. Et ça, c'est pervers. Et je l'ai fait de manière perverse. Je le dis clairement. C'est la différence qu'il y a entre un homme et une femme et des gens qui refusent d'être un homme et une femme parce qu'ils acceptent de dire la vérité. À ce moment-là, ils se donnent. Quelqu'un qui n'accepte pas de dire la vérité, quelqu'un qui n'est plus un homme, c'est fini. Donc au moins, c'est sa manière de se donner. Ce n'est pas en disant ce qu'il est, c'est en disant ses actes. Parce que ce qu'il est, ça ne vient pas de lui, ça vient de Dieu. Mais ses actes, ça vient de lui. Alors, du coup, c'est cette contrition, ça nous saigne le cœur, ça. Hein, de dire quand, de voir clairement, de montrer clairement qu'on se donne à travers... Ça, c'est personnel, ça. C'est pas la personne de Dieu qui est origine, ça, c'est moi. Alors, à ce moment-là, mon cœur saigne un peu. C'est ça la matière du sacrement, c'est mon cœur qui saigne, ça va? Je pleure un peu. Parce que ça m'arrache le cœur de le dire à quelqu'un d'autre, ça va? C'est le seul moyen pour qu'il y ait la matière du sacrement. Parce que si je dis tout seul comme ça dans ma chambre en disant « Oh oui, ça vraiment, je suis désolé d'avoir fait ça, finalement c'était pas mal quand même », ça va pas, ça va? C'est vrai ou c'est pas vrai? Alors, il n'y a pas la matière. Alors attention, ici, j'ai toujours pareil les accidents de la matière, les accidents, c'est-à-dire les apparences. La souffrance, elle demeure, ça. Enfin, c'est comme pour le pain et le vin. Toujours le même goût, la même couleur. J'ai toujours ce petit cœur qui pleure d'être comme ça. Et qui se donne pour ça. Bon, toujours. Mais avec l'absolution, ça y est, il va y avoir une transformation. Cette contrition, cet amour que j'ai eu de Dieu à travers cette blessure-là, cet amour que j'ai eu de vouloir retrouver l'unité, va être transformé par l'amour que Jésus a eu de toute l'humanité, recréé totalement par lui. Donc l'amour qu'il a eu avec, vous le savez, l'Immaculée Conception. Je crois que pour moi, c'est ça. Pour moi, c'est ça. L'absolution me met en contact avec ce qui, dans le cœur du Christ, assume l'Immaculée Conception. L'absolution personnelle. L'absolution en personne, c'est l'Immaculée Conception. Donc, il y a quelque chose qui, dans le Christ, assume l'Immaculée Conception. Et il me semble, moi, mais ça c'est Personne n'est obligé d'y croire, puisque ce n'est pas défini dogmatiquement par l'Église, mais il me semble, moi, qu'en théologie mystique, on est obligé de dire ça. C'est en théologie mystique, ce n'est pas en théologie dogmatique, puisque c'est pas un concile ne l'a pas dit. Mais n'empêche qu'il me semble qu'à ce moment-là, effectivement, on communie à cet amour vivant du Fils de l'homme, du prêtre éternel, et son amour en tant que prêtre éternel, c'est masculin, hein. En tant que patronnel, c'est l'humanité du Christ. Donc l'amour, c'est vis-à-vis de sa moitié sponsale. Sa moitié sponsale, c'est la nouvelle Ève. Il n'y a rien à faire. On peut le tourner dans tous les sens. Et il me semble donc bien qu'avec l'absolution, la demande, en tout cas, au moment de l'absolution, je crois que nous avons fait une retraite là-dessus une fois. Donc si ça intéresse, vous reprenez cette retraite. Et vous verrez qu'au moment de l'absolution, ma confession, ma demande de pardon, mon cœur qui saigne, est transformée dans le cœur de Jésus qui saigne sur la croix et qui crie pardon, 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 pour tous les péchés du monde, sans exception. Immaculation, plénitude d'immaculation, plénitude d'intensification d'immaculation pour tous les temps, pour tous les lieux, laquelle s'est réfugiée où ? Dans l'Immaculée Conception. Bon. Donc quelque part, c'est ça la transformation. Voyez ? Mais la communion, ça, c'est ce qui correspond à la consécration. Mais maintenant, la communion, quand je vais communier, au moment de la pénitence, quand je dirai mes deux « Je vous salue Marie », si c'est deux « Je vous salue Marie », n'est-ce pas, que je me donne un pénitence, au moment où je vais communier, c'est là que je communie. Alors là, je me trouve en présence, dans les larmes physiques de mon cœur, n'est-ce pas, je me trouve en présence, c'est un calice qui reçoit la présence de l'Immaculation absolue. Et ça, je l'apprends pour tous les péchés du monde, à la place de tous les pécheurs du monde entier, n'est-ce pas ? C'est là, c'est pour ça que c'est extraordinaire, que c'est là que j'ai un pouvoir de désagrégation, quelque part, vital, après une pénitence, de tous les péchés du monde entier. C'est, je crois que c'est très important, par enveloppement, je l'admets, parce que Marie, toujours par enveloppement. Bon. Moi, c'est comme ça que je verrai la différence. C'est pour ça qu'il y a une complémentarité. À travers l'Eucharistie, c'est Jésus qui donne le feu qui brûle son cœur dans la résurrection. À travers l'absolution, c'est moi qui me donne à Jésus. Voyez ? Donc dans la communion, c'est moi qui accueille Jésus qui donne tout ce qui vit dans le feu qui brûle son cœur dans la résurrection. Et dans la confession, c'est moi qui me donne totalement, pour être entièrement assimilé à l'absolution personnelle, c'est-à-dire l'Immaculée Conception, l'épouse de l'époux. C'est un échange de dons et d'accueil, l'Eucharistie, la confession. Vous voyez bien que quand la communion, c'est moi qui accueille, c'est Jésus qui se donne. Dans la confession, c'est moi qui me donne, et c'est Jésus qui m'accueille. Mais la transformation n'est pas la même. Ça va ? Il y a une complémentarité entre les deux. Moi, je crois qu'il y a quelque chose de féminin qui domine dans l'un et quelque chose de masculin qui domine dans l'autre. Et c'est pourquoi si je vais jusqu'au bout de la charité, parce qu'un sacrement c'est un signe de la foi, mais c'est pour que je puisse vivre surnaturellement et donc réellement par la grâce de la charité. À ce moment-là, la charité c'est une communion de personnes. Il me semble que si on va jusqu'à la charité, la communion eucharistique me permet de m'unir au Verbe rempli de gloire dans sa chair glorifiée, et l'absolution me permet de m'unir dans la chair entièrement immaculée et glorifiée de la nouvelle Ève. Il me semble. C'est pourquoi, pour vivre de l'humanité intégrale remplie de gloire, il faut vivre des deux. Ben, ça peut continuer longtemps comme ça. Hein. Est-ce qu'il y a une différence au ciel entre ceux qui ont beaucoup aimé Dieu et ceux qui l'ont peu aimé ? Oui, il y a une différence. Est-ce qu'il y a une différence au ciel entre ceux qui ont beaucoup aimé Dieu et ceux qui l'ont peu aimé ? Oui, il y a une différence. Tous sont comblés. Au ciel, on sera tous comblés. Tous. Tous. C'est-à-dire, personne ne pourra avoir plus. Mais à la fin, Ça, c'est un des trucs que quand j'ai découvert ça, je me rappelle, je me dis, mais c'est évident au fond. Je n'avais pas pensé à ça. Tant qu'on est dans notre corps, que notre âme assume notre corps, la liberté substantielle de notre être peut progresser dans la grâce. Puisque la progression implique le temps. Dans l'éternité, dans l'instant éternel de la gloire, terminé. À partir du moment où mon amour s'intensifie, c'est pour ça que moi je souhaite vivre le plus vieux possible. Tu vois ? Ah, je trouve ça génial, cette bonne femme qui a encore 139 ans, là, je ne sais plus combien. 123, bon, c'est déjà pas mal. 123, moi je vais jusqu'en l'an 2073. Alors, vous voyez là, en 2073, bon, alors, je passerai la télé, tiens, pour une fois, ça peut voir. C'est mon rêve. Alors, passer à travers l'Internet en 2073, ça va payer, je veux dire.
Dans le diocèse virtuel.
C'est extraordinaire. Alors bon, donc, alors, vous voyez bien, donc l'amour, il augmente. Notre amour augmente. C'est de la vie. L'amour, c'est vivant. Donc, comme toutes les plantes, comme tout ce qui vit, ça augmente, ça s'intensifie. Donc, à chaque fois que je fais un acte d'amour de Dieu, un acte d'amour surnaturel, hein, par la médiation de la grâce, surnaturel, à chaque fois que je fais un acte d'amour surnaturel, à chaque fois, l'intensité de cet amour dans mon cœur augmente. Comment est-ce qu'il faut faire pour augmenter notre degré d'intensité dans l'amour, dans la charité ? Remarquez ce que je suis en train de vous dire, marche aussi pour l'amour spirituel, naturel, humain. Un amour spirituel, naturel, humain ne peut pas diminuer. C'est impossible. Si vous voyez un jour, vous surprenez que vous aimez une autre personne humaine et que vous constatez que cet amour diminue, ça prouve qu'il n'a jamais été humain, c'est tout. C'était pas humain. Ça s'était bloqué sur les 17 premiers degrés, n'est-ce pas ? Alors, oui, ça c'est sûr que ça peut dégonfler. La baudruche peut se dégonfler, ça, à ce moment-là. Ça, c'est sûr. Vous mettez un éléphant, vous mettez une épingle dedans, c'est plus rien. Quoi. Alors, c'est extraordinaire, l'albatros, c'est l'amour d'albatros qui diminue. Moi, j'aime beaucoup. Bon, alors donc. Mais si ça devient humain, c'est fini, il ne peut plus diminuer. Il ne peut que s'intensifier. Humain, il faut que ce soit donc spirituel, il faut qu'on ait touché l'unité du corps, de l'âme et de l'esprit dans l'autre. Et que c'est ça qui devient le moteur de mon cœur. Mais pour les gens qui ne pratiquent jamais la gestion des émotions, tintin, n'est-ce pas, puisqu'ils n'ont jamais touché leur cœur spirituel, leur cœur humain. Mais une fois que ça y est, j'ai touché mon cœur humain grâce à la gestion des émotions. Bon, ça c'est des petites blagues, n'est-ce pas ? C'est pas une blague. Hein. À ce moment-là, l'amour commence, humainement parlant. Ça y est, c'est mon cœur qui aime. Il est dans sa racine, dans un amour qui est... C'est l'esprit humain en moi, c'est moi qui aime. Dans le lien qu'il y a entre mon corps, mon âme et mon esprit... Cet élan d'amour. Ah, alors là, c'est génial. À ce moment-là, à chaque fois que je vais faire un acte d'amour, que je vais me donner, que je vais accueillir et vivre l'unité, à chaque fois, l'intensité de cet amour augmente. Et si 2 ans après, avec cette personne-là, je la retrouve, eh bien, je n'aurai pas besoin de faire tout le travail de progression. Je la retrouverai, l'amour, dans l'état dans lequel je l'ai laissé. Et il continuera à augmenter. C'est absolument pareil pour l'amour surnaturel de la charité. Notre amour de Dieu, notre amour du Christ, notre amour de sainteté. Ah, alors à chaque fois, comment est-ce qu'on fait pour augmenter ? Alors, comment est-ce qu'on fait pour augmenter l'amour ? C'est ça le truc aussi. Tu ne vas quand même pas tirer sur la plante pour qu'elle augmente. Hein ? Sinon, tu arraches tout, faire gaffe. Bon. Ça, c'est le nouvel âge, ça. Hein? New Age. Je tire sur la plante, métapsychique. Je déboutonne tous les chakras et j'arrache tout. Ah, paf, il ne fait plus rien. Faire gaffe. Parce que
Je vais poser des... Est-ce que ça suffit de poser des actes d'amour pour que notre amour s'intensifie? Est-ce que ça ne suffit pas tout à fait, n'est-ce pas? Ça ne suffit pas. Oui. Comment est-ce que je vais faire pour augmenter en moi un amour? Que mon amour pour telle personne s'intensifie. Toi qui es formé, enseigné par les frères de Saint-Jean, qui c'est l'élite mondiale de la charité fraternelle. Comment est-ce qu'on fait pour intensifier? C'est les apôtres des derniers temps, c'est la sagesse. L'un ou l'autre. Je veux bien l'un ou l'autre, ça marche. Oui, au niveau humain, filia, ou au niveau agapé, surnaturel, ouais.
Je pense qu'au niveau agapé, surnaturel, on pose des actes de charité et en même temps, on vit de l'Eucharistie, de la réconciliation.
Tu peux très bien vivre de l'Eucharistie et l'amour n'augmente pas en toi. Pardon? Tu le dis, tu peux le dire, et l'amour n'augmente pas en toi. Ça arrive. Moi, je t'aime. L'amour n'a pas augmenté. Faire des actes d'adoration. Tu peux faire des actes d'adoration, l'amour n'augmente pas en toi. Je peux faire des actes d'adoration sans que mon amour augmente. Hein. Je peux pardonner. Ouais, je veux bien te pardonner. Mais enfin, quand même, tu aurais dû pas le faire. Alors là, mon amour n'a pas augmenté. Hein? Donc, vous voyez bien. Hein? Ah, je dis pas, je n'ai pas dit le contraire. Mais qu'est-ce qu'il fait alors si c'est pas mon amour augmente, hein? Bon. Je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, mais je vais vous le redire, hein, parce que je vois que c'est des choses très élémentaires. Alors, en latin, toujours beaucoup mieux. En latin, c'est génial le latin. De congruo. Ça vous dit, est-ce que quelqu'un commence à comprendre? De condigno. Mon amour augmente, n'augmente pas dans le décongruo, il augmente dans le décondigno. Qu'est-ce que quelqu'un est capable de savoir ce que je viens de dire? Bon, l'hébreu et le latin, c'est pareil pour vous, je vois. Alors, donc... Alors... Bon, alors voilà. Maintenant, je vais vous expliquer, vous allez voir, c'est limpide comme de l'eau de roche. Si je prends un ballon, vous savez, ces merveilleux ballons où les enfants soufflent dedans pour qu'ils augmentent. Je souffle dedans. Formidable. Le ballon augmente. C'est pas? Bon. Et surtout si le plastique est assez fort, à un moment donné, quand il augmente, il faut souffler fort. Hein, pour que ça augmente un peu. Et si je souffle plus trop... C'est mes joues qui gonflent et c'est pas le ballon. C'est le ballon qui se dégonfle, ça va? Bon, mais si je maintiens la pression à égalité, n'est-ce pas? Ça se maintient. Ça, c'est décongruo, ça. Ça se maintient, ça n'augmente pas. Alors, si vous préférez, je t'aime vraiment. Il y a eu des moments, je t'aime vraiment, on a eu des moments où mon acte d'amour a été très loin, n'est-ce pas? Très loin, j'ai vraiment fait un acte d'amour maximum, vous voyez, héroïque. Quand j'ai pardonné, j'ai dit bon, vous voyez? Et après, c'est génial, ça va? Alors après, je l'embrasse, je lui souris, je lui salue, je lui rends service. Je fais des actes d'intensité moindre. Je pourrais faire des actes d'intensité égale, mais je fais des actes d'intensité moindre. J'entretiens l'amour. C'est un entretien décongruo. J'y mets pas toutes mes forces, toute mon âme, tout mon esprit, toutes mes billes, toutes mes énergies en un seul acte. Mais quand je retrouve cette personne-là, que je réalise l'unité avec elle, que j'y mets toutes mes pompes, c'est-à-dire... Tout mon corps, toute mon âme, toutes mes forces, toute mon énergie, tout mon cœur, un maximum, automatiquement, l'amour augmente. À ce moment-là, c'est décontinuo. Si j'y mets tout mon corps, tout mon cœur, toute mon âme, toutes mes forces, toutes mes énergies, dès qu'on dit, il augmente. Je mets la pression maximum, quoi. Voilà. Alors, à ce moment-là, c'est ça. Dès qu'on dit, là, il augmente. C'est pas parce que je fais des actes d'amour, c'est parce que je fais des actes d'amour qui dépassent en intensité tout ce que je peux faire. Et automatiquement, Dieu est là et donne le supplément. C'est pour ça qu'il augmente. Et une fois que le supplément est donné, ça y est, c'est fini. Il ne pourra plus jamais diminuer avec cette personne-là. C'est-à-dire que la prochaine fois, si j'y mets toutes mes billes, toutes mes pompes, toute mon énergie, toute ma force, mon corps, mon âme, mon esprit, etc., 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 eh bien, ça atteindra un degré d'intensité encore plus grand. Quand je vais mourir, je vais atteindre, du point de vue de l'agapé, c'est-à-dire surnaturel, du point de vue aussi de la filia, c'est déjà un mot naturel, je vais atteindre un degré d'intensité, un degré d'intensité d'amour. Et je vais rentrer dans la vision béatifique, ça c'est la lumière, c'est plus de l'amour. L'amour c'est du feu, si vous préférez. Je rentre dans la vision béatifique, ça c'est la lumière. Je vais voir celui que j'aime. Ceux que j'aime. De plus en plus. Ah oui, de plus en plus, la communication de la lumière sera de plus en plus intense, profonde, éternellement, éternellement, éternellement. Or, plus je connais quelqu'un, plus je l'aime. Donc il y aura une augmentation de l'amour, mais c'est en extension. Et c'est du côté de la lumière, mais pas du côté du degré d'intensité de cet amour. C'est pour ça qu'il faut souhaiter vivre le plus longtemps possible sur cette terre, avec le plus d'épreuves possibles, le plus de barbelés possibles. Ah, génial! Parce qu'à ce moment-là, je peux faire des actes, c'est des occasions à chaque fois qui me permettent d'obliger, de m'obliger à me dépasser en disant tout. C'est plus facile d'y mettre toutes ses billes dans l'amour quand on est épuisé. Parce que si tu es en pleine pompe, hein, en pleine force, tu diras que tout va bien pour toi et que tu as envie de t'installer. T'as envie de te mettre dans ta... Comment ? Dans ton coton. Et très, très, très difficilement, tu dépasses par des actes d'amour toutes tes capacités. Tandis que quand t'en as marre, que t'en as pris plein la figure, que tu t'es épuisé, que t'es là, tu dis, allez, allez, hop, je me relève. Il ne faut pas grand-chose, quelque part, du point de vue des énergies. Et du coup, mais néanmoins, je vais plus loin que toutes mes forces. Et grâce à ça, grâce à ces épreuves, etc., eh ben, contrairement à ce qu'on croit, eh ben, c'est une chance prodigieuse, n'est-ce pas? Parce que ça permet à mon amour d'augmenter, de se dépasser, de se dépasser, de se dépasser. C'est dans la faiblesse qu'on se dépasse toujours. Ok, alors donc, voyez bien, dès qu'on creuse, dès qu'on nio, vous avez tout compris. Bon, et eh bien, effectivement, au ciel, eh ben, il y en a un qui va arriver à une intensité d'amour... les mille fois, quoi, un océan, et l'autre, bon, ce sera le petit dé à coudre. Hein. Dé à coudre. Il y aura une différence entre les deux. Ça, c'est uniquement pour la quantité. Maintenant, il y a l'intensité, c'est pareil. C'est pas... Alors, ça fait quand même une différence. Mais n'empêche que chacun, nous serons comblés. Est-ce qu'il y a des gens qui... où est-ce que c'est? Peut-on affirmer qu'il y a des damnés? Pourquoi les prêtres contemporains ne prêchent plus ou presque sur les fins dernières? Moi, je ne sais pas, demandez-leur. Hein. Moi, ce n'est pas mon problème. Hein, je veux dire, moi, je ne les connais pas, ces gens-là. Je n'ai jamais vu un prêtre qui ne prêche pas sur les fins dernières. Jamais vu ça. Donc, si vous en connaissez un, présentez-le moi, ça m'intéresse. Voilà un monstre particulier qui m'intéresse, jamais vu. Alors, donc, si vous avez vu, moi, je ne sais pas, je n'ai jamais vu d'Esquimaux non plus. c'est... Un prêtre qui ne prêche pas sur les fins dernières, ce n'est pas un prêtre. Pas compliqué. Et si vous dites qu'il n'a pas prêché sur les fins dernières ou qu'il ne vous en parle pas, ça veut dire que vous ne le connaissez pas, c'est tout. Bon, alors. Vous n'êtes pas tout le temps tendu à chaque parole qu'il prononce. C'est que vous êtes tombé les jours où il a voulu parler d'autre chose. L'Eucharistie, de la charité, du social. Bon, ben voilà, très bien, ça, c'est son problème. C'est le vôtre surtout. Bon. Et puis vous voulez bien entendre ce que vous voulez bien entendre. Simplement, les damnés. Ah oui, alors est-ce qu'il y a des damnés? Peut-on affirmer qu'il y a des damnés? Bien sûr, on affirme qu'il y a des damnés. Ah, mais alors la miséricorde de Dieu. Mais Dieu est miséricordieux quand même. Alors il y aurait des damnés éternellement en enfer? Mais alors donc Dieu ne serait pas miséricordieux? Attends mon pote. Attends, qu'est-ce que tu racontes là? Parce que si un jour il n'y a plus de damnés éternellement, ce serait grâce à Dieu. C'est ça qui est dans l'esprit des gens qui pensent comme ça. Si Dieu est très miséricordieux, donc il supprimerait la damnation. Donc, donc ça voudrait dire que s'il y a des gens qui sont damnés, c'est Dieu qui ferait la damnation. Donc Dieu source du mal. Donc d'après ton avis, Dieu est source du mal alors. Dieu n'est pas source du mal. L'enfer, ça ne vient pas de Dieu. L'enfer, c'est contraire à son désir, c'est contraire à son plan de sagesse, c'est contraire à tout. Dieu n'est innocent du mal. C'est pas Dieu qui fait que le mal il existe ou il n'existe pas. Ben, Dieu n'a rien à voir avec le mal, sauf erreur. Ben, toi, tu confonds Satan et Dieu, toi. Alors fais gaffe à ce que tu dis devant moi, sinon je te casse tout. Bon, et puis même si tu ne veux pas me croire, hein, eh ben je vais te dire un truc. L'Église est infaillible. Et l'infaillibilité doctrinale de la Sainte Église, qui tient cette infaillibilité du Christ lui-même, affirme que celui qui dit que l'enfer n'existe pas, ou que cet enfer durera un certain temps puis sera dilué, ou que il n'y a personne en enfer, cette doctrine qu'on appelle apocastase. Apocastase, celui qui la profère de ses lèvres, ou celui qui la croit dans son cœur, qu'il sache qu'il a perdu totalement la foi catholique. Point à la ligne, discutez plus. Nul ne va en enfer qui ne l'ait décidé lui-même. Et Dieu aura tout fait pour essayer de l'en empêcher, lui donner tout l'amour, mais il ne peut pas l'obliger. Et il y en a, et l'Écriture le montre, qu'il y a des hommes, pas un, des hommes, qui ne veulent pas de vivre, ne veulent pas vivre dans l'humilité. Dans la chasteté. Dans la virginité de l'âme et du corps. Dans, au fond, dans la gloire, dans la prière, dans l'union. Ils veulent vivre d'eux-mêmes, par eux-mêmes, pour eux-mêmes. Ils n'aiment pas qu'il y ait une ambiance d'amour, de limpidité. Vous voyez, ils n'aiment pas. Ils n'aiment pas ça. Ils l'aimeront jamais. Moi, me faire pardonner, j'ai rien à me faire pardonner. Je regarde. Hein? Ah ben, même le sachant, parce que lorsque c'est ça qui est terrible, c'est ce qui fait que Jésus se trouve à Gethsémani avec des larmes de sang. Pourquoi? Parce qu'il sait que malgré tout ce qu'il va faire, qui est infiniment plus que ce qu'il faudrait pour sauver chacun d'entre eux, malgré tout ce qu'il va faire, ils refuseront en face, lucidement. Ils diront, non, je sais bien, mais non. À leur mort, lorsque ils vont se retrouver devant Jésus, qui veut les brûler de l'amour, les illuminer, ils disent, non, ça va, stop, je n'ai jamais voulu, je ne veux toujours pas. En pleine lumière, en pleine connaissance, ils aiment de continuer à vivre éternellement, séparés, et de continuer à jouir de ce qu'ils ont choisi de faire durant leur vie, lucidement, et de continuer à le faire éternellement. Eh oui. Nul ne va donc dans la damnation. Et il y en a, ne croyez pas que ça n'existe pas. Mais quand ça commence à faire à quel moment? Lorsque vous dites, moi j'ai fait ça, je reconnais que c'est mal, mais je ne le regrette pas. Et je le regrette pas. Il le méritait, ce salaud, je lui ai pété la gueule, et c'est normal, moi je serai à refaire, je le referai. Je le regrette pas, bon, vous comprenez? Je vois pas pourquoi je le regretterais. Après tout, c'était mon droit. Il y a des gens qui ne refusent éternellement, continuellement, de renoncer à leurs droits. Ouais, ça s'apprend, ça. Hein? Renoncer à ses droits, c'est une chose très importante. Accepter de renoncer à ses droits élémentaires. Il y a des gens qui disent, je ne vois pas pourquoi j'aurais renoncé à mes droits. Hein, surtout quand c'est le cœur qui est impliqué, que c'est dur. L'obéissance. Mais tout commence avec ça. Ma liberté, je ne vais pas renoncer à ma liberté. Mais imbécile, c'est une liberté artistique. Mais la liberté surnaturelle, la liberté spirituelle, la liberté contemplative, la liberté dans le don. La fameuse liberté du don du Saint-Père. C'est quand même autre chose, non? Ah, ça m'intéresse un peu moins parce que je perds ma liberté. Non? Mais non, tu ne perds pas ta liberté. Pas nécessairement. Tu perds la coquille, mais du coup, tu as l'œuf. Alors. Bon, ok. Bon, alors voilà. Est-ce qu'un protestant, frère séparé, peut accéder au salut? Puisque leur baptême serait-il valide, puisque leur foi est en partie erronée. Donc, leur foi n'est pas plénière, donc elle ne justifie pas. Bon, ben, prochaine réunion œcuménique, je vais proposer cet argument. Bon, pour un protestant, remarque, c'est intéressant ces questions, hein, c'est vrai. C'est des questions, j'allais dire, qu'on nous pose, qu'on se pose quand même quelque part. Hein. Vous savez, là, qu'est-ce qui donne la justification? La justification, c'est ce qui enlève le péché originel. C'est la foi qui justifie. C'est pas le baptême, hein. C'est la foi qui justifie. C'est la foi. Tu fais un acte de foi surnaturel. Tu es justifié. Aussitôt. Vous allez me dire, c'est pas le sacrement de confession? C'est pas le sacrement de baptême qui enlève le péché? Non. Pas tout à fait. C'est la foi va être assumée dans le baptême et va. Mais c'est la foi! Pas le baptême. Vous savez que le baptême fait cinq choses. Donc, une des cinq choses qu'elle fait, c'est qu'elle lave le péché. Mais là, ici, que fait le baptême? Il prend la foi des parents, et oups, il se sert de la foi des parents pour gicler sur l'âme du mec, du gosse. Hein? Et ça y est, c'est nettoyé, c'est génial. Bon, effaceur. Mais j'ai utilisé comme matière première la foi des parents. C'est la foi qui justifie. Et le baptême, c'est quoi? C'est simplement, je suis capable de prendre la foi des parents pour tchut, justifier. C'est génial. Ça, pour ça, c'est un instrument pas mal. Hein? C'est, hein? Bon. Alors, très bien. La confession. Bon, voilà. Donc, voilà pour le baptême. La confession, maintenant, qu'est-ce qu'elle prend? Ah, elle prend ta charité. Elle prend ta contrition. C'est ta contrition qui t'enlève. Donc la foi, la charité, la contrition. Tu fais un acte de foi. Donc la charité, il y a la foi dedans. Hein. Par la confession prend ça et se sert de ta contrition, le mélange avec un autre, hein, qui est la contrition du Christ sur la croix. Hein, il prend les deux contritions et tchit, hop, il efface la tâche du péché. D'accord. Mais qu'est-ce qu'il a fait finalement? C'est la contrition. Bon, bref. C'est la foi qui justifie. Ça va? La foi, pourquoi? Parce que la foi, elle réunit en une seule vie toi et Jésus. C'est ce que fait la foi. C'est un acte de foi. Et ça, s'il va jusqu'au bout de toutes tes puissances surnaturel, tu es justifié. C'est la foi qui est justifiée. Il y a un protestant, je suis désolé, un protestant, est-ce qu'il a la foi? Ben bien sûr. Oui, mais il y a des trucs hérétiques. Ah, oh, oui, d'accord. Des trucs hérétiques. Bon, des trucs hérétiques. Ouais. Bon, j'en connais d'autres qui font des hérésies aussi. Enfin, hein? Par exemple, saint Thomas d'Aquin, c'est un hérétique. Ouais. La preuve, c'est qu'il dit que l'Immaculée Conception, ce n'est pas vrai. Hérétique! Saint Thomas d'Aquin, hérétique! Ah, et sainte Catherine de Sienne, docteur de l'Église, c'est une hérétique. elle ose dire, dans les dialogues en plus, et puis c'est le Père, hein, c'est le Père qui parle dans les dialogues, l'Immaculée Conception n'est pas exacte. Il ne faut pas en parler. Ce n'est pas juste de parler d'Immaculée Conception. Et elle dit non. Le Père, à travers Sainte Catherine, hérétique Sainte Catherine de Sienne. Donc, elle est pas... Donc c'est ridicule d'avoir canonisé ces gens-là. En plus, on fait du docteur. Donc, c'est ridicule. Mais non, c'est pas si ridicule que ça. Vous voyez bien, la foi ne consiste pas à proclamer les dogmes définis par l'Église catholique. La foi consiste à s'approcher de Jésus, Verbe incarné, d'adhérer à lui, de l'aimer et de vivre de cette unité vivante qu'il y a entre sa personne divine et l'amour brûlant qui brûle toute son humanité dans la résurrection. Voilà, c'est ça la foi. La foi, c'est toucher Jésus, de rentrer en lui, d'en vivre, hein, de vivre ce qu'il vit. Maintenant, si dans la formulation, à cause de mes fêlures, à cause de la culture dans laquelle je suis, etc., je formule mal ce que l'Église formule bien, d'autres choses. C'est la foi qui justifie. Ça va ? L'acte de foi. Je touche Jésus, premièrement. Credere Deum. Credere Deum. Et puis en plus, credere in Deum. In Deum. Donc, je touche Jésus, je rentre en lui, et c'est lui qui vit à travers moi. Voilà, j'ai fait un acte de foi. Et tout ça, c'est dans la lumière. Ok, voilà. Donc un protestant, oui, oui, il est, vous inquiétez pas, il a la foi. Voilà. C'est pour ça que c'est un frère, il fait partie de mon corps mystique. Bon. 4 heures déjà, je rêve. Bon, alors, je vais introduire en 10 minutes ce qu'on va faire pour la deuxième partie, à savoir l'induction de la substance. Il faudrait peut-être qu'on y aille, qu'un jour qu'on y arrive à cette histoire d'induction de la substance. Alors.